enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Et suite à un événement, parce qu'ils étaient là encore avec Jésus, ils vont se poser la question, mais qui est donc celui-ci ? Et je crois que ce soir encore, on pourra être étonné, ébahi par la grandeur, la puissance de notre Dieu. On est là dans une série d'études concernant les 7 miracles de l'évangile de Jean. On a vu que dans l'évangile de Jean, il y avait 7 miracles. Mais Jésus en a fait bien plus. Mais s'il y a 7 miracles dans l'évangile de Jean, et si l'évangile de Jean a été écrit, conduit par l'Esprit Saint, c'est dans un but bien précis. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, nous dit Jean à la fin de l'évangile. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le but de l'évangile de Jean, c'est simple, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, c'est marqué. Jean lui-même nous donne le but. C'est que vous croyez, c'est susciter la foi. L'évangile de Jean a été écrit bien après les 3 premiers évangiles, il s'adresse davantage à des chrétiens qu'à des inconvertis, et même pour des chrétiens, le but de l'évangile de Jean, c'est d'affermir, susciter la foi, afin que non seulement on ait la nouvelle naissance et qu'on devient comme un nouveau-né spirituel, mais qu'on grandisse, qu'on s'affermisse, que notre foi là soit ferme, inébranlable, et que même si elle est éprouvée par le feu, eh bien le résultat soit la louange, l'honneur et la gloire pour notre Dieu, et que là notre foi nous amène à vivre, pas seulement à avoir la vie éternelle, pas seulement à dire « je vivrai dans l'avenir », c'est-à-dire je serai sauvé de la mort éternelle, je serai sauvé de l'enfer, et j'aurai le salut à venir. L'apôtre Paul, à un moment, parle du salut à venir, mais c'est bien plus qu'un salut à venir, sauvé de l'enfer, c'est un salut présent, c'est plus qu'une vie éternelle à venir, c'est une vie dès maintenant. Jésus dit « j'ai donné ma vie pour mes brebis, afin que mes brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Et la foi nous donne de vivre. Le juste vivra par sa foi. Pas seulement vivre dans l'avenir, mais vivre dans le présent encore. Les 7 miracles de l'évangile de Jean, c'est l'eau changée en vin aux noces de Cana. C'est aussi la guérison du fils d'un officier, du roi. On a vu ça la dernière fois. C'est aussi la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda. C'est ce qu'on verra ce soir. C'est aussi la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Et Jésus marche sur les eaux. On verra ces 2 miracles dimanche prochain. Ensuite, la guérison de l'aveugle-né. Et enfin, le 7e, la résurrection de Lazare de Béthanie. Si Jean a sélectionné ces 7 miracles, c'est afin de nous amener à une progression, c'est un but pédagogique pour nous enseigner à croire, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie éternelle. Dans le premier miracle de l'eau changée en vin, on a vu que la leçon principale, c'était la parole. Croire dans cette parole, mettre cette parole en action, faites tout ce qu'il vous dira. Et on a insisté sur le fait qu'au commencement, il y a la parole. Et que la foi ne peut pas être là s'il n'y a pas la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La conclusion de ce miracle, Jean nous le dit lui-même, « Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles, ou le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Ça a été le premier miracle. Ils ont été là stupéfaits, surpris. Ils n'avaient jamais vu de miracle. Jamais Jésus n'avait fait de miracle. Ils avaient entendu Jésus, oui. Ils avaient entendu des discours de Jésus. Mais là, voilà qu'ils voient un miracle, un signe qui les amène à constater que la gloire de Dieu est en Christ. Et la conclusion, ses disciples crurent en lui. Pourtant, auparavant, Nathanaël avait déjà cru. Mais sur cette parole, et maintenant, les miracles vont attester que cette parole est la vérité, et ce miracle va amener à un approfondissement de la foi. Dans le deuxième des miracles, on a insisté sur le fait qu'il y avait le miracle et le Seigneur. Et Jésus va même faire cette réflexion à cet officier du roi. Il va dire, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Et on s'est posé la question en ce qui nous concerne, est-ce qu'on cherche le miracle, est-ce qu'on cherche le prodige, ou alors est-ce que le miracle et le prodige sont la conséquence de notre foi, de notre communion, de notre amour envers notre Dieu, ou alors est-ce que c'est ça que nous cherchons réellement? Et qu'on puisse vraiment être là au cœur de la louange, comme on l'a chanté ce soir, et chercher avant tout la face de Dieu, sa communion, sa présence. Le miracle, ce n'est qu'un signe qui est là pour attester, manifester, confirmer, et peut-être même interpeller celui qui ne croit pas encore, à tourner les regards vers Jésus. C'est Jésus qui compte, c'est pas le miracle, c'est pas le signe en lui-même, c'est Jésus. Dans ce miracle de la guérison de ce fils de l'officier du roi, eh bien, il nous est dit que cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Jésus lui a dit, va, ton fils est vivant. Il avait fait le chemin depuis Capernaum jusqu'à Cana, et voilà que juste une seule parole, va, ton fils est vivant. Ton fils, maintenant, est guéri. Mais Seigneur, je vois rien. Ton fils est guéri. Et cet homme crut simplement dans cette parole. Il a manifesté sa foi en redescendant paisiblement avec confiance et foi dans sa maison. Et quand il arrive dans sa maison, il reconnaît que son enfant a été guéri à l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Et là, Jean nous dit « Il crut, lui, et toute sa maisonnée ». Auparavant, il était écrit aussi « Il crut » lorsque Jésus lui a dit « Va, ton fils vit ». Mais maintenant, il est dit encore « Il crut » parce que sa foi maintenant n'est plus focalisée, concentrée, obnubilée par le miracle. Quand il était arrivé au pied de Jésus, suppliant, priant, intercédant, il n'avait qu'une seule idée en tête, la guérison de son fils. Ce qu'il cherchait, c'était le miracle. Il n'était pas venu pour Jésus. Il n'était pas venu pour dire, Seigneur, je veux te connaître. Je veux savoir si tu es réellement le Messie d'Israël. Non, il est venu parce que son fils est malade et sur le point de mourir. Elle dit, je t'en prie, descends chez moi, parce que mon fils meurt et j'ai besoin d'un miracle. Mais quand il a vu ce miracle était là comme un signe, eh bien sa foi est arrivée à une autre dimension, une autre ampleur. Cette fois, il ne croit plus pour voir un miracle, mais il croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et il a la vie en son nom. Il crut, lui et toute sa maisonnée. Maintenant, on arrive à Jean chapitre 5, c'est le texte de ce soir, et on va le lire ensemble. Peut-être que vous l'avez déjà lu. Vous êtes préparés ce soir en disant, tiens, je vais prendre un petit peu d'avance et je vais voir par moi-même un petit peu ce qu'on peut découvrir dans ce texte. Jean chapitre 5, du verset 1 à 16. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Jean nous dit qu'il y a une fête des Juifs. La fête des Juifs, c'est la Pâque. Passar, c'est la fête des Juifs, la Pâque. Vous vous souvenez que quand on était à Jean chapitre 2, quand on était là, Jean chapitre 3, pardon, quand on était, il y a eu Cana, quand Jésus est revenu à Cana, ben, dimanche dernier, on a vu que Jésus revenait de la fête. Donc là, il y a à peu près une année qui s'est déroulée entre les deux épisodes, entre dimanche dernier et aujourd'hui, il y a une année qui s'est écoulée. Ça va vite, hein? Le temps passe vite, hein? Eh bien, voilà que Jésus est là à la fête de à la fête des Juifs, à la Pâque, à Jérusalem, et à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a là une piscine, qui s'appelle en hébreu Bethesda. Près de la porte des brebis. Jean dit, près de la porte des brebis, et c'est pas un hasard. Jean là nous donne des petits détails, afin de nous amener à discerner quelques informations, quelques leçons, quelques enrichissements pour que notre foi grandisse. Pourquoi la porte des brebis? Pourquoi est-ce si important de dire que ça se situe à côté de la porte des brebis? Pourquoi pas ailleurs? Que tout, que ce soit là ou ailleurs? Non. Jean dit attention, que celui qui est attentif écoute, que celui qui a des oreilles pour écouter entende et prenne garde. Eh bien, la porte des brebis, elle se trouve où à Jérusalem? Vous connaissez la carte de Jérusalem? Je crois que je connais mieux la carte de Jérusalem que celle de Montréal, mais ça va venir. Jérusalem, la porte des brebis. Ça, c'est la ville au temps de Jésus. Jérusalem, ça se situe sur une colline. C'est David, le roi David, qui avait conquis cette ville. Voilà que Jérusalem est là sur une butte, et tout en haut, au sommet, il y a le temple. Autour de Jérusalem, il y a une muraille avec différentes portes. Et sur la droite, il y a la piscine de Bethesda. Elle est là, vous voyez? Et la porte des brebis, elle est juste à côté, elle est là. Mais pourquoi ça s'appelle la porte des brebis? Ben, en toute logique, parce qu'il y a une affaire avec des brebis. Et pourquoi des brebis à Jérusalem, des brebis en ville? Les brebis, ça se trouve à la campagne. Non, mais là, regardez la porte des brebis, où elle se trouve par rapport au temple. Elle est juste à côté du temple. Et il ne s'agit pas ici des brebis pour les boucheries de la ville de Jérusalem. Il s'agit des brebis destinées au temple, destinées aux sacrifices, aux holocaustes. Les brebis qui devaient être amenées sur l'autel, dans le temple, étaient amenées par cette porte. Même il y a une version en anglais qui au lieu d'utiliser l'expression « porte des brebis », va dire le marché des brebis. Donc c'est là que les brebis passaient afin d'être amenées au temple. Et Jean, un peu plus tard, au 10e chapitre, va nous dire ce que Jésus avait déjà proclamé. « Je suis la porte des brebis. » Jésus va dire « Je suis la porte des brebis. » en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Et il insiste en disant « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Jésus dit « La porte des brebis, c'est moi. » Et là, quand Jésus dit « La porte des brebis », ceux qui habitent Jérusalem, tout de suite, la porte des brebis, on connaît. C'est juste en bas du temple. C'est sûr que nous, quand nous lisons le texte, et quand nous lisons ce texte de Jésus qui dit « Je suis la porte des brebis », on dit « Bon, la porte des brebis, ça doit être dans une bergerie. Jésus est là, peut-être à la porte de la bergerie. Et pour rentrer dans la bergerie, il faut passer par Jésus. » D'accord? C'est une belle image. Mais ceux qui sont à Jérusalem, quand Jésus va leur dire « La porte des brebis, c'est moi », la porte des brebis, ça leur dit quelque chose. La porte des brebis, c'est celle qui est à côté du temple. C'est celle par laquelle rentrent les brebis pour aller au temple, afin d'être sacrifiés, afin d'être immolés. Et Jésus dit, je suis la porte des brebis. Et celui qui entre par moi, eh oui, mais celui qui entre par moi, la brebis qui rentre par la porte des brebis, elle est destinée à mourir. Elle est destinée à aller sur l'autel des holocaustes. Elle est destinée à être sacrifiée. Mais Jésus dit, non. Celui qui entre par moi à la porte des brebis, eh bien, aura la vie. Il entrera, il sera sauvé, parce que Jésus est la brebis, l'agneau de Dieu, qui est mort à notre place, afin que nous, en entrant par lui, nous n'arrivions pas jusqu'à l'autel des holocaustes en ce qui nous concerne, parce que nous n'avons pas à mourir, parce que Jésus est mort pour nous, parce qu'il a lui-même été ce sacrifice expiatoire, parce qu'il a été lui-même, il a pris notre place. Ça, c'est la porte des brebis. On pourrait dire beaucoup de choses dessus, mais on va continuer dans notre texte. On est là, près de la porte des brebis, à une piscine qui s'appelle Bethesda. Là encore, Jean nous dit, attention, pas n'importe quelle piscine. Cette piscine, elle s'appelle en hébreu Bethesda. Alors, évidemment, celui qui lit le texte au temps de l'apôtre Jean connaît l'hébreu. Nous, on a du mal avec l'hébreu. Alors, on va prendre un dictionnaire. On va dire, voyons voir ce que peut bien vouloir dire Bethesda. Bethesda, ça veut dire littéralement la maison de la miséricorde. Et Jean nous donne ce détail parce qu'il est important. Il dit, voilà un homme qui est près de la porte des brebis. Et Jésus va devenir sa porte des brebis. Voici un homme qui est près de la porte des brebis dans une maison qui s'appelle la maison de la miséricorde. Et il y a là 5 portiques et 5, c'est la miséricorde. La maison de la miséricorde. C'est sûr que Dieu est un Dieu de miséricorde. Est-ce que vous le croyez? Sa bonté durera toujours, sa miséricorde durera jamais. Deutéronome 4, 31 nous dit, l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. L'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, on le sait. 1 Chronique 16, 34, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et si vous faites attention, cette expression, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, c'est un leitmotiv quasiment dans tous les chants de louange que l'on peut trouver. Là, on est dans le livre des Chroniques, mais si on va dans les psaumes, ne serait-ce que dans le psaume 136, on trouve 40 fois « sa miséricorde dure à toujours ». Je veux dire, oui, ça revient à un verset sur deux. Mais pourquoi on insiste autant? Mais pour bien se rappeler et se dire mutuellement « sa miséricorde dure à toujours » et que personne ce soir ne doute que sa miséricorde dure à toujours. Aujourd'hui encore, Dieu est miséricordieux, lent à la colère et compatissant. Aujourd'hui encore, sa bonté est grande. Il nous a tant aimés en donnant Jésus sur la croix du calvaire. Aujourd'hui encore, il nous aime. Aujourd'hui encore, il est miséricordieux. Sa miséricorde dure à toujours. Parce qu'avec le temps, on peut oublier que sa miséricorde est encore là. On peut oublier que Dieu nous aime autant. On s'habitue à l'amour de Dieu. Et finalement, après, on arrive avec toutes sortes d'arguments, toutes sortes d'idées que le malin, des fois, vient nous insuffler. Non, Dieu est miséricordieux. Il n'est pas celui qui, aujourd'hui, va essayer de nous faire du mal. Des fois, on entend, attention, si t'es pas sage, le bon Dieu va te punir. J'espère que ce n'est pas ce qu'on dit à l'éducation chrétienne ici aux enfants. Des fois, j'ai peur. Non, notre Dieu est un Dieu plein de miséricorde. Oui, comme on l'a entendu ce matin, il y a une discipline. Oui, il y a une crainte de Dieu. Et n'oublions pas que sa miséricorde durera toujours. Que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Par contre, si on résiste à Dieu, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais si nous nous approchons de lui avec humilité, avec repentance, sa miséricorde durera toujours. Et aujourd'hui encore, il est celui qui aime et qui est plein de miséricorde. Mais quand on réfléchit bien au texte que l'on a lu ensemble, dans Jean chapitre 5, il y a des anomalies. Vous ne trouvez pas? Un petit peu comme ces petits jeux qu'on peut trouver des fois pour enfants avec un dessin et autres. Il y a marqué « Cherchez l'erreur ». Et là, si on lit Jean chapitre 5, on pourrait presque poser la question « Cherchez l'erreur » ou « Les erreurs ». Je dirais « Oh non, il n'y a rien qui me choque, il n'y a rien qui vous surprend là. » On va dire « Mais c'est quoi cette affaire ?» Bon, il y a déjà évidemment l'affaire de cet ange là. Alors c'est quoi ça? Il y a un ange qui vient, qui remue l'eau, le premier qui va dans l'eau est guéri, quelle que soit sa maladie. Bon. Et Jésus est là. L'ange vient guérir des malades alors que Jésus est là. Alors que Jésus est là depuis plus d'un an, son ministère est officiel. Il a été baptisé par Jean le Baptiste, la voix de Dieu s'est fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé », et il y a là comme un ange qui vient court-circuiter, qui vient faire de la concurrence, si je peux m'exprimer comme ça. Oui, mais c'est surprenant. C'est bizarre, non? Ça ne vous surprend pas? Et puis, quand on est là dans le plan divin, et quand on prend le message de la Bible, parce que quand on prend un texte, quand on lit un texte, les étudiants qui veulent là faire de l'herméneutique, ceux qui veulent étudier la parole, eh bien, quand on lit un texte, il faut toujours le prendre dans le cadre d'un contexte et dans le cadre de tout le contexte biblique. On peut pas dire, bon, ben voilà le message ici, ça veut dire que bon, mais dans un autre passage, ça veut dire autre chose. Non, il y a là tout un plan. Moi, je vois, en lisant la Bible, que celui qui guérit, c'est Jésus. Que dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y avait là un mode opératoire différent que Dieu souverain proclame à Moïse, au travers de Moïse au peuple, « Je suis l'Éternel qui te guérit », mais on voit, et même l'Ancien Testament avait annoncé ces choses, il envoya sa parole et les guérit. On a vu que Jésus est la parole de Dieu incarnée, faite chair, et l'apôtre Pierre nous confirme ce que Ésaïe avait déjà proclamé, « Par ses meurtrissures, nous avons la guérison en Jésus ». Parce que même d'autres traducteurs vont dire que l'ange qui est là, c'est un ange qui se baigne dans cette piscine. Il y a certaines versions, la parole vivante entre autres en français, va dire voilà, c'est un ange qui se baigne dans cette piscine. En fait, c'est une piscine, c'est une source, une piscine avec une source d'eau. Et comme c'est une source, eh bien, quand il y a de l'eau qui arrive dans une source, et actuellement encore en Israël, il existe ce genre de piscine et des sources comme ça, eh bien, cette eau qui vient au niveau de la source ne vient pas d'une manière régulière. De temps en temps, il y a comme un à-coup et ça vient faire quelques remous, au-dessus de l'eau, et il y a là comme un mouvement de l'eau. Et alors, en ce temps-là, on va dire que c'est certainement un ange qui est là. Il faut comprendre, en étudiant un peu plus près le texte biblique, bon, et là, il faut aller dans les textes anciens, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, et on n'a pas l'original. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a plus de 5000 copies, d'accord, du Nouveau Testament, toutes sortes de copies différentes, et que dans la plupart des manuscrits, et même des meilleurs, on ne trouve pas ce passage. Ça s'arrête au chapitre, au verset 2, et ça reprend directement au verset 5. Donc c'est comme si on avait lu, sous les portiques, il y avait des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, c'est le point. Là, se trouvait un homme malade. Bon. Mais quand cet homme va répondre à Jésus, « J'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée », eh bien, nous-mêmes, si on n'avait pas eu le verset 3 et le verset 4, on va dire, mais c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qu'il fait là au bord d'une piscine? Alors, avec le temps, et surtout dans les manuscrits un peu plus vieux, c'est-à-dire au 5e siècle, il y a eu comme un rajout qui a été mis à ce texte-là, afin que nous-mêmes, aujourd'hui, nous comprenions mieux ce qui se passe. Un petit peu comme si quelqu'un avait noté dans la marche, parce qu'il n'y avait pas de photocopieur, il fallait écrire ça à la main, il fallait dupliquer, réécrire tous les manuscrits à la main, comme si quelqu'un avait mis en marche, voilà, cette histoire de piscine, c'est parce que, en ce temps-là, il y avait cette croyance, il y avait cette... voilà ce que les gens pensaient. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas? On va en reparler. Mais c'était là comme un commentaire qui a été ajouté tardivement et qui aujourd'hui se trouve dans notre Bible. Quelque part, tant mieux, heureusement que c'est là dans notre Bible. Mais l'important, c'est pas l'ange, c'est Jésus. L'important, c'est pas qu'il y ait un ange qui soit là, parce que quelque part, c'est une anomalie. Un ange qui vient et qui guérit alors que Jésus lui-même est là. Et notez bien que Jésus ne va pas aider cet homme à être plongé dans la piscine afin que l'ange le guérisse. Mais il n'y a pas besoin d'ange avec Jésus. Il le guérit directement. Maintenant, une autre anomalie, et on va revenir sur ça tout à l'heure. Une autre anomalie, c'est la maison de la miséricorde. Ça, c'est une anomalie. Vous allez dire, une anomalie? Oui. Ça s'appelle la maison de la miséricorde. Et on a dit, Dieu est miséricordieux. Vous allez dire, bon, ben d'accord, on est d'accord là-dessus, d'accord. Mais c'est une maison de miséricorde. Là où il y a beaucoup de malades, et combien sont guéris? Un de temps en temps. Lequel? Le plus rapide. Voilà la miséricorde. Est-ce que c'est ça la miséricorde de Dieu? Si t'es rapide, tu seras guéri. Si t'es pas rapide, ben tant pis pour toi. Est-ce que notre Dieu miséricordieux réagit selon ces principes-là, ces modèles-là? Non. Là, il y a une anomalie quelque part. Mais quelle miséricorde? Est-ce que Dieu aurait cette miséricorde-là à dire c'est un concours, c'est à celui qui va le plus vite, c'est au meilleur, les autres, tant pis pour eux, celui qui peut, tant mieux, mais lui, il est paralytique. Comment il va faire pour se déplacer? Il ne peut pas marcher, il est paralytique. Ben, il est perdant d'avance. Et en plus, il dira tout à l'heure, mais j'ai même personne pour m'amener dans l'eau. Il est là, personne pour l'aider à aller dans l'eau, il ne peut pas marcher, mais quelle miséricorde! Ce n'est pas ça la miséricorde de Dieu. Et encore une autre anomalie, cette piscine se trouve juste à côté du temple. Est-ce qu'ils auraient mieux pas été au temple, plutôt que là, dans cette maison de la miséricorde, à attendre le mouvement de l'eau produit par un ange, au lieu d'attendre un ange? Est-ce qu'il ferait mieux pas d'attendre Dieu, même s'il n'avait pas la révélation de Jésus-Christ en ce temps-là encore? Pour certains, c'était fait, pour d'autres, ça ne l'était pas encore. Même s'il n'avait pas cette révélation de Jésus-Christ, le Messie d'Israël, le Fils de Dieu, celui qui est venu comme prophète de la part de Dieu, est-ce qu'ils n'auraient pas pu dire, nous allons aller au temple, et c'est Dieu lui-même, c'est à Dieu lui-même que nous allons intercéder. Parce que le temple, c'est la maison de Dieu. Et Salomon lui-même, quand il avait dédicacé ce temple, avait dit, ben, quand quelqu'un viendra et intercédera, demandera, toi éternel, du haut des cieux, tu répondras. Et cette maison de la miséricorde, avec cette piscine, il n'y a aucune prière. Il n'y a aucune demande. Il y a juste un plongeon. Mais il y a une anomalie là, quelque part. Il y a une anomalie. Jésus est là, près de la piscine de Bethesda, qui est à côté de la porte des brebis. Jésus vit ce malade. Jésus a vu ce malade. Il y avait beaucoup de malades. Jean nous le précise. Il y avait, à cette piscine, beaucoup de malades qui étaient couchés en grand nombre, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Il y avait toutes sortes de malades. Et Jésus en voit un. Combien de malades ont été guéris à cette piscine? Et les autres? Mais Jésus voit celui-ci. Parce que Jésus ne regarde pas seulement l'apparence. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était malade comme lui, qui était paralytique comme lui, mais Jésus voit le cœur de cet homme, et même voit sa foi, voit sa disposition, voit son attitude de cœur, son honnêteté, même s'il n'est pas là au bon endroit, même si son espoir n'est pas placé de la bonne manière, Jésus discerne son honnêteté et va le chercher là où il se trouve. Jésus connaît les cœurs, il connaît la soif, la foi de cet homme, il va directement auprès de cet homme. Jésus a compassion, sachant, Jésus sait qu'il est malade depuis si longtemps, depuis 38 ans. Jésus, l'envoyé de Dieu, lui qui est là pour guérir les malades aussi, s'approche de cet homme qui était là si près du temple. Mais Jésus lui apporte le miracle, lui apporte le salut, lui apporte la miséricorde, la vraie miséricorde qui n'est pas dans cette maison. Dans cette maison de la miséricorde, la piscine de Bethesda, Jésus vient et va devenir la porte des brebis pour cet homme. Jésus lui pose une question surprenante. Veux-tu être guéri? C'est pas une anomalie, ça aussi, là? On va dire que c'est bizarre, quand même. Jésus vient auprès d'un homme et lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Mais Seigneur, ça fait 38 ans que je suis malade. Mais si on y réfléchit bien, si cet homme est à la piscine de Bethesda, qu'est-ce qu'il fait là? Si cet homme est là, c'est bien parce que quelque part, il espère être guéri. Sinon, il serait ailleurs. Sinon, il resterait pas là à passer sa journée à guetter le mouvement de l'eau de cette piscine. Il espère bien quelque part être guéri. Jésus lui pose cette question, veux-tu être guéri? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais ça, c'est pas guéri. Ah oui, mais si on le lisait en grec. En grec, guéri, sauvé, c'est le même mot. Sozo. C'est le même verbe. Ah, on va commencer à comprendre bien des choses. Sauver, guérir, c'est le même mot. Donc quand en français on traduit guérir, on peut très bien mettre sauver à la place, c'est la même chose. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. C'est le même mot en grec. Le mot sozo a été traduit 92 fois par sauver et 9 fois par guérir. Quand cette femme disait « Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri, je serai sauvé. » Et même, Jésus va dire, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui au sujet d'un... Non, ça c'est Pierre et Jean qui vont dire ça. Nous allons vous dire comment il a été guéri quand il parle de ce boiteux à la porte du temple. Mais Jésus va dire, « Vous vous irritez contre moi, c'est la diapo 14, parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. » Et là, j'insiste sur cette expression « tout entier ». Parce que quand Jésus guérit, c'est tout entier. Jésus ne veut pas s'occuper du corps seulement. Jésus ne veut pas s'occuper de l'âme seulement. Jésus ne s'occupe pas de l'esprit seulement. Il sait que nous sommes corps, âme et esprit. Et il veut prendre soin de nous d'une manière parfaite, tout entier. Jésus ne guérit pas le malade pour le bien de son corps seulement, mais afin qu'il soit sauvé. Sauvé, guéri, sauvé, sauvé de la mort éternelle. Jésus veut nous sauver. Le salut que nous avons concernant la vie éternelle, cette nouvelle naissance dans laquelle nous sommes entrés, c'est une partie du salut que Dieu veut nous donner. Mais la guérison physique en fait partie aussi. Parce que Jésus prend soin de l'âme, de l'esprit et du corps. Sauvé d'une manière tout entière. J'ai sauvé cet homme tout entier. J'ai guéri cet homme tout entier. Jésus pose la question à cet homme, « Veux-tu être guéri ?» Et cet homme va répondre. Et qu'est-ce qu'il répond ?« Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » C'est bizarre. On aurait pu penser que cet homme allait répondre « Oui, Seigneur, je veux être guéri. Veux-tu être guéri ? Oui, Seigneur, c'est ce que je veux. Moi, je suis là. Si tu veux m'aider, aide-moi. » Et cet homme dit « Seigneur, il n'y a personne pour m'aider. » Quelque part, c'est un peu comme si cet homme disait « Seigneur, tu me demandes si je veux être guéri, mais c'est pas possible. » Cet homme est comme là dans un pessimisme, et c'est la réalité, en disant « Regarde, je suis paralytique. Alors, avant que je sois le premier dans l'eau, et encore, s'il y avait quelqu'un pour m'aider, je pourrais éventuellement peut-être arriver le premier, mais il n'y a personne pour m'aider. Je suis là, paralytique, tout seul, abandonné, et je ne peux pas être guéri par cette piscine. » Et Jésus lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Et cet homme continue à avoir les yeux fixés sur le mouvement de l'eau qui l'attend, et dont il sait que jamais il pourra être guéri parce que jamais il sera le premier. Et il y a là comme un espoir impossible, comme une guérison qui ne pourra jamais avoir lieu. C'est peut-être pour ça que Jésus lui a posé la question. Mais est-ce que vraiment tu veux être guéri? Si tu veux être guéri, qu'est-ce que tu fais là? Regarde, tu le dis toi-même, que de toi-même tu ne pourras pas être guéri, que tu ne pourras jamais être le premier, que il n'y a personne pour t'aider. Tu es là à attendre une guérison qui n'arrivera jamais. Et en ce qui nous concerne, ça peut nous arriver d'être dans la même position que cet homme. Être là dans un système de superstition religieuse. Appelons les choses comme elles sont. Un système de superstition religieuse. Un système là où on attend une guérison par un secours mystique et bizarre. Et c'est-à-dire, au lieu d'avoir les yeux fixés sur l'éternel, au lieu d'avoir les yeux fixés en ce qui nous concerne pour nous aujourd'hui, sur Jésus. On a les yeux fixés sur toutes sortes d'affaires, d'autres systèmes. En France, on dirait Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, là. Je ne sais pas si vous avez des affaires comme ça ici. Je crois qu'à Saint-Joseph aussi, il y a eu des trucs comme ça. Et il y en a qui vont avoir les yeux fixés là-dessus. Plutôt que d'aller vers Dieu en disant « Seigneur, j'ai besoin que toi, tu me guérisses », ils vont chercher l'eau bénite ou les ossements de saint un tel. Si seulement je pouvais faire tel pèlerinage, si seulement je pouvais arriver dans telle grotte où il y a eu telle visitation, si seulement je pouvais boire de l'eau bénite qui vient de tel endroit. Et on se focalise sur des petites affaires comme ça, au lieu d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Vous allez dire, oui, mais nous, ouais, attendez, on n'en est pas là. On est évangéliques, pentecôtistes. Néanmoins, ça peut nous arriver Je ne dis pas de croire dans l'eau bénite ou dans l'apparition de la Vierge ou des choses comme ça, mais être focalisé sur autre chose que sur Jésus lui-même et être là dans, comme dans un système religieux, on est là où on prie pour la guérison sans l'attendre. Est-ce que, honnêtement, ça ne pourrait pas arriver? D'être là en disant, Seigneur, je prie pour être guéri, mais ça fait tellement longtemps que je prie pour être guéri que je n'y attends même plus. Mais bon, pour la forme, et puis bon, c'est comme ça, et puis peut-être que un jour ou l'autre, ou alors on espère dans telle ou telle méthode, tel ou tel système. Si un jour il y avait seulement un grand évangéliste qui venait, qui était plein de foi et de zèle, peut-être que je serais guéri. Est-ce que c'est l'évangéliste qui va vous guérir? Des fois on a ça en France. Nous, généralement, à chacune de nos réunions du dimanche après-midi, on prie pour les malades parce qu'on croit dans la guérison des malades. Et notre Dieu est celui qui guérit les malades. Des fois, il y a certaines personnes, alors quand c'est un pasteur de renom, alors là, ah, on a la foi. Et quand c'est quelqu'un d'autre, on a moins la foi. Mais ce n'est pas le pasteur qui guérit. Ce n'est pas le renom de l'homme de Dieu. C'est Jésus. C'est pas telle église ou tel lieu. Oh, si seulement j'allais dans telle église, j'ai entendu parler d'un réveil dans telle église. Je vais aller dans telle église et peut-être que je serai guéri. Mais ça, c'est la même superstition que de faire un pèlerinage pour aller voir Notre-Dame de je sais pas qui. La foi, est-ce qu'on la met en Jésus? Ou est-ce qu'on la met dans un homme? Même si c'est un homme de Dieu, hein. Je dis rien contre là. Même si c'est un homme de Dieu, ou est-ce qu'on la met dans un lieu? Est-ce qu'on la met dans un temps? Est-ce qu'on la met dans un moment? Est-ce qu'on la met... Est-ce que la Bible, là, vous l'embrassez en disant c'est la Bible du pasteur untel, alors je la garde sous mon cœur? Non, il ne faut pas avoir de superstition comme ça. Mais attention, parce que la superstition, c'est humain. Et si on n'est pas vigilant, ça peut nous arriver. Oula, il ne faut surtout pas enlever ces chaises, parce que c'est les chaises qui ont connu le réveil. Il y a la bénédiction de Dieu sur les chaises. Vous riez, mais on l'a entendu plus d'une fois en France. Et même dans une église évangélique, on peut comme ça arriver à tomber dans toutes sortes d'affaires. Et Jésus ramène cet homme à l'essentiel. Est-ce que vraiment tu veux être guéri? Ouvre les yeux, je suis là. Je suis là, devant toi. Cet homme va dire, mais il n'y a personne pour m'aider, pour aller dans l'eau. Il espère dans une guérison qui ne pourra jamais avoir lieu, parce qu'il est au mauvais endroit, il aurait mieux fait d'être au temps. Il est au mauvais endroit, il a fait un mauvais choix, il n'y a pas d'espoir pour lui. Pourtant, Jésus va le chercher quand même. Jésus ne va pas lui dire, écoute, tu n'es pas là, tant pis. Hein. Tu n'es pas au bon endroit, non. Et Jésus va le chercher quand même. Et là, on voit la miséricorde de notre Dieu. Qui même des fois, lorsque nous nous trompons nous-mêmes, lorsque nous nous fourvoyons dans de faux raisonnements et qu'on n'est pas au bon endroit, et même certaines personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur vont le découvrir dans un endroit de pèlerinage comme ça, alors que ce n'est pas là qu'il faut être. Mais pourtant, Dieu va voir la sincérité de leur cœur et va les éclairer et les amener ailleurs et répondre à leurs besoins. Cet homme va dire, j'ai peu d'espoir, et Jésus va lui dire tout simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Trois ordres. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et ça, c'est une parole qui amène le miracle. C'est une parole qui conduit au miracle. Lève-toi, prends ton lit et marche. Comment me lever? C'est pas possible, Seigneur. Mais si Jésus dit lève-toi, ben tu te lèves. Et c'est ce que cet homme a fait. Aussitôt, cet homme s'est trouvé debout. Il pensait qu'il fallait être plongé dans la piscine. Voilà qu'il se retrouve debout sans être mouillé. Voilà qu'il se retrouve debout sans avoir plongé dans cette piscine. Le miracle a eu lieu tout simplement à cause d'une parole. Il entend cette parole parce qu'il y a un contact, une communion, une rencontre avec Jésus. Il entend cette parole, il est attentif à cette parole. Non seulement il l'entend, mais il la reçoit. Je reçois cette parole, comme on a vu dans les autres miracles. La parole, ça commence par là. Lève-toi, il entend. Cette parole vient susciter la foi. Si cet homme me dit de me lever, c'est qu'il a l'autorité pour me rendre affermir mes jambes et que je me tienne debout. Il reçoit cette parole, il y croit, il met sa foi dans la parole de Christ et ensuite, il pratique, il met en œuvre ce que Jésus lui a dit. Parce que Jésus ne lui a pas dit seulement « lève-toi ». Il lui a dit « lève-toi, prends ton lit et marche ». Et cet homme aurait pu dire « mais Seigneur, lève-toi, ça me suffit ». Pourquoi est-ce que tu veux que je prenne mon lit? J'en ai pas besoin, j'en ai plus besoin, je vais prendre un lit un peu plus confortable maintenant. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Notez bien qu'on est où ? À la porte des brebis. Et c'est où la porte des brebis ? C'est à côté du temple. Bon, ben d'accord, mais pourquoi ? Est-ce que c'est si important ? Parce que si c'est à côté du temple, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes religieux, de sacrificateurs, de lévites, de scribes qui passent par là. Tous ceux qui allaient prendre les brebis, qui les amenaient, il y a toutes sortes d'hommes religieux qui passent par là. Et ce jour-là, c'est le jour du sabbat. Porter son lit le jour du sabbat, mais cet homme sait très bien que ça va lui amener des problèmes. Cet homme sait très bien que si on le voit en train de porter quelque chose le jour du sabbat, ça va lui porter des problèmes. Mais Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors cet homme se dit, mais Jésus a dit de me lever et me voilà debout. Alors il obéit pas seulement à la première partie de cette parole, lève-toi, mais il obéit à toute la parole. Prends ton lit et marche, et quelles que soient les conséquences. Jésus aurait pu dire à cet homme, lève-toi et marche. Et on aurait évité bien des problèmes. On aurait évité bien des affaires, et on voit dans la suite du récit que là, il va y avoir les hommes religieux, ça loupe pas, hein, tout de suite, ils vont aller le trouver en disant, mais il ne t'est pas permis, il y a une anomalie, il faut pas que tu portes ce lit. Mais c'est Jésus qui me l'a dit. Et cet homme va dire, celui qui m'a dit, lève-toi, m'a dit de prendre mon lit. Et là, on voit l'hypocrisie de la religion et de ces hommes religieux, qui vont dire à cet homme, mais qui est celui qui t'a dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit. En fait, ils sont même pas là en train de se dire, mais c'est formidable, t'es guéri, tu marches, t'étais paralytique et voilà que tu marches. Non, non, ils disent, hé, t'as pas le droit de porter ton lit là. Mais c'est pas moi, c'est lui qui m'a dit de le faire. Attends, qui est-ce qui t'a dit de porter ton lit ? Celui qui m'a guéri. Bon, guéri, hop, il t'a dit de porter ton lit. Et ils passent sur l'épisode, il m'a guéri, et ils sont là sur, il m'a dit de porter mon lit. Mais cet homme porte son lit parce que Jésus a dit de le faire. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il obéit à toute la parole, quelles que soient les conséquences. Et en ce qui nous concerne, pour qu'on puisse avoir cette même démarche de foi, à pas calculer en disant, mais qu'est-ce que ça va faire si j'obéis à toute la parole? Oh, il y a des choses, je veux bien obéir à la parole de Dieu, mais ça, ça risque de m'amener des problèmes. Si je veux obéir à la parole de Dieu et ne pas mentir, ça peut me porter des problèmes. Ah bon? Ah ben, certaines personnes, ça peut être délicat s'ils ne veulent pas mentir. Si le patron, par exemple, dit, écoutez, si on téléphone, vous dites que je ne suis pas là. Il est là ou il n'est pas là? Il est là, mais il faut dire qu'il n'est pas là. Ah, qu'est-ce que vous faites, vous? Il m'a dit de vous dire qu'il n'était pas là. Oh non, mais ça, c'est une petite affaire. Bon, c'est pas important. Comment ça? Cet homme se dit pas, bon, si je prends mon lit, oula, ils sont là. S'ils me voient porter mon lit, qu'est-ce que je vais me ramasser? Ils vont tout de suite tomber sur moi, ça. C'est ce qui s'est passé. Il se dit, mais celui qui m'a dit lève-toi et qui a eu l'autorité de m'amener ferme sur mes jambes alors que j'étais paralytique, m'a dit, prends ton lit et marche. Cet homme obéit à la parole de Christ et pas seulement à un peu ou à ce qui l'intéresse en disant, moi, la guérison, ça me suffit, non? Il obéit à toute la parole, quelles que soient les conséquences, simplement, sans discuter, il obéit à cette parole. Que ça puisse aussi être notre manière d'agir et notre cœur à dire, Seigneur, c'est écrit, quelles que soient les conséquences, même si dans ce monde, ça va pas être compris, même si les institutions religieuses vont pas comprendre, même si, Seigneur, c'est écrit, je le comprends, c'est clair, ça peut pas être plus limpide, je veux pas seulement obéir à la portion de parole qui va me faire du bien et qui va me guérir, mais je veux obéir à toute ta parole. Et Jésus a vu les dispositions de cœur de cet homme quand il l'a vu et quand il l'a repéré parmi tous ses malades. C'est pas seulement pour dire il a la foi pour être guéri, voilà quelqu'un qui obéit et qui va être d'une manière tout entière. C'était le jour du sabbat. Et les Juifs vont dire à cet homme, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Ils se sont focalisés là sur ce fait qu'il porte son lit au lieu d'oublier le miracle. C'est vrai que les hommes religieux à cette époque-là, le jour du sabbat, il fallait rien faire. Il fallait rien porter. Même le jour du sabbat, on était par exemple, s'il y avait un moustique qui vous embêtait, il fallait pas le tuer. Un moustique, comment? Un maringouin? Maringouin. Parce que c'était considéré comme un acte de chasse que de tuer un moustique. Ah oui, oui. C'est le Talmud. Jusqu'où il faut aller? Ah oui, mais c'est Dieu qui nous a donné le sabbat, d'accord. Est-ce que c'est pas Dieu qui avait donné la circoncision aussi? Et que si ça tombait le jour du sabbat, ben, on faisait la circoncision quand même, mais j'ai pas, ben non, c'est le sabbat. Et Jésus dira plus tard qu'il est le maître du sabbat. Si c'est Jésus qui dit prends ton lit, ben, si c'est lui qui me dit de le faire, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est que j'enfreins pas un commandement de Dieu. Ah, c'est certainement le commandement des hommes. Et c'est là où il faut arriver à faire la part des choses entre le commandement des hommes, l'influence des hommes et d'un système religieux, et d'être là tout simplement dans la simplicité de la parole de Christ, et dire « Seigneur, ce que tu me dis, je veux le faire. » On lui pose la question, mais qui est celui qui t'a guéri? Qui est celui qui t'a dit « Prends ton lit et marche. » Et celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Et Jésus avait disparu de la foule qui était à cet endroit-là. Cet homme a été guéri par Jésus. Jésus lui a dit une parole, « Prends ton lit et marche. » Il a mis sa foi dans cette parole. Il se retrouve guéri et il ne sait pas qui c'est. Il ne sait pas que c'est Jésus qui l'a guéri. Il ne sait même pas quel est son nom. Mais Jésus va le retrouver. Et où est-ce que Jésus retrouve cet homme? Dans le temple. Ah, ça change. Maintenant, il est au bon endroit. Il n'est plus au bord de la piscine. Et il ne va pas rester au bord de la piscine en disant « Je suis guéri !» Mais il va au temple tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il sait que cet homme, même s'il ne le connaît pas, l'a guéri avec la puissance de Dieu. Et que celui qui doit être loué et remercié, c'est l'Éternel, celui qui habite dans le temple. Quelque part, il réalise qu'il n'était pas au bon endroit. Et il retourne là où il aurait dû être depuis le départ. Et ce miracle, cette guérison, a permis à cet homme de changer de lieu, de sortir d'un lieu de superstition religieuse, d'un lieu où il y avait trop d'anomalies, pour arriver là où il aurait dû être dès le départ, dans la maison de Dieu, à louer l'Éternel, à être en contact avec Dieu et à le remercier de tout son cœur. Jésus le retrouve dans le temple. Cet homme est venu pour adorer et remercier Dieu. Le changement de lieu, c'est ce qui était nécessaire pour cet homme. Jésus va lui dire une parole qui peut-être peut être mal comprise. Il va lui dire, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez réfléchi à ces paroles? Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Attendez, ça fait 38 ans que cet homme est malade. Impotent, paralytique, sans pouvoir marcher, être là comme déprimé, découragé, à pouvoir dire « Je suis là au bord d'une piscine à attendre un miracle qui n'arrivera jamais. » Et Jésus lui dit « Il peut t'arriver quelque chose de pire. » Vous avez dit, attendez, là, on n'a pas parlé de la miséricorde tout à l'heure. On n'a pas parlé de Dieu miséricordieux. Est-ce que Jésus est en train de lui faire des menaces en disant « Attention, attention, tu risques d'être malade encore plus. » Pensez qu'on peut être malade encore plus que 38 ans de paralysie? Est-ce que certains vont dire « Ah non, non, c'est parce que si cet homme était malade, c'est parce qu'il avait péché. » C'est ce que vous pensez? C'est un peu facile de dire que si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il a péché. S'il fallait qu'on pointe là du doigt tous ceux qui sont malades en disant « Mon frère, si tu es malade, c'est parce que tu as péché. Ma sœur, si tu es malade, c'est parce que Dieu te juge. » Ça peut arriver, pas. C'est Dieu qui est souverain, qui peut nous conduire dans des temps d'épreuve, afin de fortifier notre foi, d'accord. Mais ce n'est pas une loi. Le péché amène ses conséquences, c'est vrai. Mais le péché dans le monde amène ses conséquences. Pas seulement notre péché, si quelqu'un a une vie d'impudicité, d'immoralité, il peut se retrouver avec toutes sortes de maladies, c'est vrai. Et c'est la conséquence directe de son péché. Si quelqu'un fume et puis il se retrouve avec un cancer du poumon, c'est la conséquence directe de son péché. Si quelqu'un boit et se retrouve avec une cirrhose du foie, c'est une conséquence directe. Mais il y a aussi comme des conséquences indirectes. Quand quelqu'un se retrouve atteint d'une maladie à cause du péché des autres ou à cause du péché du monde. Quand quelqu'un se retrouve irradié, quand quelqu'un se retrouve là atteint d'un cancer du poumon à cause du tabagisme passif, il ne fume pas, mais c'est les autres qui fument. Et puis c'est lui qui se retrouve malade. Quand quelqu'un se retrouve malade à cause de la pollution et parce qu'il y a eu toutes sortes de problèmes autour. Et il y a là toutes sortes de conséquences dont même le juste peut être atteint. Même David va dire, et ça va peut-être pas vous réjouir, mais David le dit, le malheur atteint souvent le juste. Oh là, attendez, c'est pas fini. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur peut atteindre le juste. Et c'est pas parce qu'il a péché que le malheur lui tombe dessus. Job, c'est un exemple parmi tant d'autres. La maladie peut atteindre le chrétien. Et c'est pas parce qu'il est malade qu'il a un contentieux avec Dieu et que Dieu a quelque chose contre lui. Il est question d'Ésaïe et il est dit Ésaïe mourut de la maladie dont il était atteint. Il était malade et il en est mort. Est-ce que Dieu avait quelque chose contre lui? Non. Et la maladie, c'est notre lot, alors que nous sommes sur la terre, et qu'il y a là le péché environnant. D'accord. Mais quand Jésus dit à cet homme, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, on se souvient que le mot guérir et sauver, c'est le même. Et que si Jésus veut guérir cet homme, il ne veut pas le guérir seulement de sa maladie physique, mais le sauver. Sauver son âme. Et donc, ce miracle qui a eu lieu, cette guérison qui a eu lieu, c'était pas seulement une guérison physique, mais aussi une guérison de son être tout entier. Et maintenant, Jésus lui dit, ne pêche plus, reste dans cette vie nouvelle maintenant que tu es sauvé, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, à savoir la mort éternelle, l'enfer. Pire que malade depuis 38 ans, c'est l'enfer. Vous croyez pas que c'est pire? On peut être en bonne santé sur cette terre, mais si c'est pour mourir en enfer. On peut être en bonne santé sur cette terre, mais si c'est pour finir comme ça, alors que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus afin que justement on soit libéré, affranchi, sauvé, celui qui croit en lui ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Et cet homme, Jésus lui dit, maintenant que tu as eu ce contact avec moi, cette communion qui t'a amené à la guérison, ne pêche plus. Vis dans cette vie nouvelle, dans cette foi nouvelle. Vis dans cette vie de sainteté. Honore ton Dieu. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Est-ce que c'est clair? En conclusion, et on va arriver sur un autre point. La miséricorde de Dieu, il faut y croire. Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est plein de bonté et de compassion et ça ne ressemble pas à la piscine de Bethesda. La miséricorde de Dieu, elle n'est pas dans cette piscine. Elle est dans la maison de Dieu. Et la miséricorde de Dieu, on ne va pas la trouver dans toutes sortes d'effets de superstitions religieuses. On va la trouver dans la maison de Dieu, là où Jésus est là. Cet homme avait besoin, non pas d'un ange qui remue l'eau, mais cet homme avait besoin de Jésus. Et de la même manière, ce soir encore, nous avons besoin de Jésus. La première leçon que nous avons vue dans le premier des miracles de l'évangile de Jean, c'était que la foi devait être placée dans la parole de Christ. Au commencement est la parole, et la foi, elle est sur cette parole. Faites tout ce qu'il vous dira. La deuxième leçon, c'était que la foi dans la parole de Christ implique une réaction. Cet homme qui avait son fils malade a pas seulement dit « je crois », mais il est venu vers Jésus. Et il a prié. Et quand Jésus va lui dire « Va, ton fils est vivant », il va pas dire « Bon, Seigneur, c'est tout ». Il va dire « Je crois que ce que tu dis, c'est vrai ». Et il va réagir en conséquence, retourner chez lui. Et quand il va avoir le miracle, eh bien sa foi va amener encore une... Ce miracle va amener encore une autre réaction à une foi plus ferme. Il est le Christ, le Sauveur, tout comme les Samaritains l'avaient confessé auparavant. La troisième leçon que l'on trouve dans ce verset, dans cette parole que l'on a étudiée ce soir ensemble, c'est que la foi dans la parole de Christ implique l'obéissance à toute la parole. Et qu'on ne peut pas être malhonnête devant Christ ce soir en disant « Moi, j'ai besoin de ça, mais ça, j'en veux pas. Moi, j'ai besoin que tu me guérisses, mais le reste, je le ferai pas. Moi, j'ai besoin que tu me guérisses, Seigneur, mais compte pas sur moi pour témoigner, je suis trop timide. Moi, je veux que tu me guérisses, Seigneur, mais je le dirai à personne. » Parce que ça me gênerait quand même de dire à mes voisins, mes voisines, tu sais, si je suis plus malade, c'est parce que Jésus m'a guéri. Non. Obéir à toute la parole. Être ses témoins, être ses disciples, et pas seulement ce qui nous intéresse et ce qui nous arrange. Lève-toi, pas seulement lève-toi, mais prends ton lit, même si ça doit amener des réactions contre nous. Prends ton lit et marche. Et pouvoir être là, tenir ferme en disant, celui qui m'a guéri, celui qui a fait ce miracle dans ma vie m'a dit aussi de mettre en pratique telle et telle et telle parole dans ma vie, et c'est ce que je veux faire, parce que celui qui a fait un miracle dans ma vie est celui qui a parlé dans ce livre, et je veux mettre en pratique sa parole. Et c'est certainement parce que cet homme avait cette attitude de cœur que c'est celui-là qui a été guéri, et pas les autres. Si les autres, on a parlé tout à l'heure qu'ils étaient nombreux autour de cette piscine, si tous n'ont pas été guéris, c'est parce qu'ils étaient là en train de regarder l'ange, et puis pour eux, Jésus, ça comptait pas. Et même si Jésus s'était adressé à eux, ils auraient dit, toi, tu ne nous intéresses pas, moi, je m'occupe de l'ange. L'ange, pour nous, est plus important. Ils n'étaient pas là avides. Ils n'avaient pas soif que Dieu intervienne. Ils voulaient être guéris, et c'est tout. Et Dieu n'avait rien à faire là-dedans. C'était juste un ange qui venait dans cette piscine, et c'était tout. Mais cet homme-là, lui, était là tellement désespéré, parce que de toute façon, de lui-même, il ne pouvait même pas aller dans cette piscine, qu'il va venir vers Jésus et recevoir cette guérison. Et j'aimerais insister, faire un appel maintenant, en reprenant cette phrase que Jésus va dire à cet homme, « Veux-tu être guéri ?» Et j'aimerais dire que peut-être que cette parole ne s'adresse pas à tout le monde. Parce que peut-être que quelqu'un n'a pas besoin d'entendre cette parole ou ne va pas se sentir concerné par cette parole. Si le Seigneur a mis ça sur mon cœur, c'est parce que le Seigneur a quelque chose à vous dire à quelqu'un ou à plusieurs personnes qui sont là dans ce lieu. Voyez-vous, je ne crois pas que je suis en train de parler à ceux qui ne sont pas là. Vous savez, c'est comme quand il y a un don spirituel et qu'on dit « Ah, ça c'était pour la sœur Intel, c'est dommage qu'elle ne soit pas là. » Et le Seigneur, mince, tu parles à quelqu'un qui n'est pas là, Seigneur ? Et non, si le Seigneur parle, c'est pas pour celui qui n'est pas là. Si le Seigneur parle, c'est pour celui qui est présent dans ce lieu. Et si cette parole, le Seigneur a mis ça sur mon cœur, c'est parce que ça concerne une, deux, trois, plusieurs personnes dans ce lieu, et que le Seigneur veut nous amener, même manière que cet homme, à réfléchir et à reprendre cette parole, « Veux-tu être guéri ?» Peut-être les musiciens pourraient prendre place. « Veux-tu être guéri ?» Cet homme était là, au mauvais endroit, peut-être que quelqu'un va se rendre compte ce soir, et peut-être que l'Esprit de Dieu est déjà en train de parler son cœur, est en train de parler à son cœur en disant « C'est vrai que je suis pas au bon endroit, et que j'espère ma guérison, mais de la mauvaise manière. Que j'espère qu'il va se passer telle ou telle chose, ou alors comme cet homme qu'on a vu la dernière fois, qui voulait à tout prix que Jésus vienne chez lui. Et quand Jésus lui a dit « Je ne viendrai pas chez toi, mais ton fils est guéri. » Il a cru dans cette parole. Eh bien, qu'on puisse nous aussi ce soir dire « Seigneur, je ne veux pas rester là focalisé dans tel ou tel principe que je me suis moi-même fixé et qui ne vient pas de Dieu. » Être là au mauvais endroit, dans une miséricorde qui ne vient pas de Dieu, dans quelque chose qui comporte trop d'anomalies. Et pouvoir dire « Jésus, toi, tu es là. » Et Jésus s'adresse à nous et s'adresse à plusieurs ce soir et dit « Est-ce que tu veux être guéri ?» Et ça n'a pas mis longtemps. Aussitôt, cet homme fut guéri. Quand je me suis préparé pour ces choses, c'est ce que j'avais sur le cœur, et je crois que maintenant, et on va prendre du temps pour prier, c'est un temps où le Seigneur veut guérir. Est-ce que vous croyez que le Seigneur guérit les malades ? Oui ? Moi, je sais que le Seigneur guérit les malades. Comme je vous disais tout à l'heure, en France, nous, nos réunions ne sont pas structurées de la même manière. Le dimanche matin, c'est le culte, comme on fait ici, on célèbre notre Dieu. Et le dimanche après-midi, dans quasiment toutes nos églises, des assemblées de Dieu de France, eh bien, ce sont des réunions d'évangélisation, où on proclame l'évangile, où on atteste « Jésus est le même, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et nous disons ce que Jésus a fait autrefois, il le fait encore. Et dans chacune de nos réunions, on prie pour les malades. Et à votre avis, est-ce que les malades sont guéris? Les malades sont guéris. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Veux-tu être guéri? Je bénis le Seigneur pour ceux qui ont été guéris récemment, quand j'étais à Toulon. Ce petit enfant qui avait un souffle au cœur, deux médecins avaient certifié ça. Père est venu désespéré en disant, mon enfant a un souffle au cœur. On a prié ensemble. 3 jours après, il va chez le médecin, il n'y a plus rien. Gloire à Dieu. Cette femme qui avait là c'était une personne âgée qui avait du diabète. Elle dit, mais moi je crois que Jésus est celui qui guérit encore. Elle était insulino-dépendante, elle faisait une piqûre tous les jours. Elle surveille toujours son diabète, mais en surveillant son diabète, eh bien, il n'y a pas besoin de piqûre et il n'y a pas besoin de prendre de l'insuline. Le Seigneur rétablit le diabète. Toutes sortes de miracles. C'est pas moi qui guéris. Moi je ne suis rien. C'est le Seigneur qui guérit. Mettez pas votre foi en moi, c'est ce que je viens de prêcher. Hein. Faut pas mettre la foi à la piscine, mais mettre la foi dans le nom de Jésus. Vous savez, des fois, on se sent tellement bien faible et moi-même, des fois, je dis, mais Seigneur, est-ce que c'est possible? Une fois, il y a une aveugle qui est venue à l'imposition des mains. Et là, je peux vous dire que, au début, j'étais là, disant, Seigneur, mais tu es grand, hein? Oui? Tu fais de grandes choses. Mais Seigneur, je crois que tu es celui qui guérit. Et j'ai mis toute ma foi et le Seigneur m'a aidé à placer ma foi. Et cette femme a placé sa foi. Elle était là aveugle, on a prié pour elle. C'est rien passé, elle est rentrée chez elle. Et deux mois plus tard, elle revient à l'église, elle voyait, sans sa canne blanche. Et elle dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Une maladie incurable. Les médecins avaient certifié, impossible de retrouver la vue. Mais le Seigneur a ouvert les yeux à cette femme. Et si je dis cela, c'est afin de vous susciter de la jalousie. Et dire, mais si le Seigneur l'a fait pour les autres, et pourquoi il ne le ferait pas pour moi? Est-ce qu'il vous aime moins que les autres? Et il vous aime ce soir. Mais la question est-ce que vraiment tu veux être guéri? Mets la foi dans Jésus, en Jésus seul, en Jésus Christ. Je veux mettre ma foi dans la puissance de la croix. L'enfer peut trembler. Jésus a vaincu notre adversaire. Dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. La foi est puissante. La croix est puissante.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.